Nous accueillons Véronique maintenant au 39-21. Bonsoir Véronique.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous Véronique ?
Pas très bien, pas très bien.
D'où nous appelez-vous ?
Je vous appelle de Lourdes, d'Orléans-Pyrénées.
D'accord. Vous habitez là-bas ou vous êtes de passage ?
Oui, j'habite là-bas. Non, j'habite là-bas.
D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, dites-moi ?
Je voulais vous parler de ma mère qui est partie en EHPAD récemment. Malheureusement, j'ai dû la mettre en EHPAD. Et puis les visites depuis quelque temps sont très 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 réduites. Et pour ainsi dire une fois par semaine. Et c'est pas facile à vivre pour elle et puis pour moi de la voir souffrir, de l'entendre souffrir parce que elle comprend pas ce qui se passe. C'est tout ça par rapport au Covid évidemment.
Oui.
Et je parle de ma mère, mais je parle pour toutes ces personnes âgées qui sont isolées dans ces maisons de retraite. Alors je ne suis pas là pour dire du mal de la maison de retraite parce que là où elle est une excellente maison de retraite. Le personnel fait ce qu'il peut, la directrice aussi, mais c'est l'isolement de ces gens-là qui est terrible quoi, à voir. Et puis moi je le vis très mal, très 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 mal.
Je comprends, c'est le système même de la maison de retraite qui est un endroit, oui. Ça n'est pas chez nous, hein. Ça ne sera jamais chez nous une maison de retraite,
voilà.
Vous voyez ?
C'est
ce que je me dis, moi, quand j'y pense aujourd'hui et où je m'interdis de me dire que j'irai un jour dans un EHPAD, mais Dieu seul sait si j'irai, vous voyez. Mais je ferai tout pour ne pas y aller parce que ça n'est jamais chez nous, l'EHPAD. Et donc, cette solitude, cette tristesse,
voilà.
On a tendance à penser, parfois, quand on passe devant ces maisons-là, de dire ces pauvres petits vieux et tout ça, mais là, ils ont l'air bien, là. Mais non.
Faut rentrer.
Mais et puis comment voulez-vous être bien là ?
Non, c'est pas possible.
S'il vous reste un temps soit peu de lucidité, comment vous voulez être bien là encore en plus en ce moment où en plus on peut pas, ils ne peuvent pas voir les leurs. Enfin, c'est juste terrible ce qui se passe. Terrible.
Absolument. Et c'est terrible pour eux et pour la famille.
Bien sûr. Enfin, mais ça l'est beaucoup plus pour eux.
Ah, pour eux, c'est affreux. C'est affreux. En plus, il n'y a pas longtemps qu'elle y est parce que je n'ai pas pu faire autrement. Parce que si j'avais pu la garder chez elle ou chez moi, je l'aurais fait. Mais je ne pouvais pas. C'est pas possible. Je suis toute seule à m'en occuper. Et malheureusement, elle ne marche plus suite à une mauvaise chute. Et donc, les contraintes sont absolument difficile, mais elle comprend pas, je l'ai encore eu au téléphone cet après-midi, et elle pense que je l'ai abandonnée, que je l'ai laissée, que, enfin, c'est épouvantable.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça, en fait, que vous a-t-elle dit ?
Pardon ?
Que vous a-t-elle dit pour que vous ayez ce sentiment-là, que vous l'abandonnez, qu'elle pense que vous l'abandonnez ?
C'est elle qui me l'a dit, mais parce qu'elle me voit pas. Parce que je ne peux pas aller la voir. Les premiers temps, je pouvais y aller régulièrement. Là, ouais. Et puis depuis le 1er octobre, l'ARS a demandé que les visites soient encadrées.
Ouais.
Mais parce que bon, j'ai téléphoné à l'ARS, je me suis renseignée. Ils n'ont pas interdit les visites, mais les directeurs et directrices de maisons de retraite font comme ils peuvent quand il faut encadrer les visites. C'est limiter les visites dans le temps et dans la fréquence. Donc, ce qui fait que nous n'avons le droit d'y aller qu'une fois par semaine. Et encore une demi-heure. Mmh. C'est épouvantable.
Ben oui, c'est épouvantable.
C'est épouvantable.
Et en plus de ça, personne ne peut rien contre ça, malheureusement. Parce qu'il y a ce virus, et que quoi qu'il arrive, ce virus ne doit pas passer les portes de ces EHPAD.
Tout à fait.
C'est une chose certaine.
Voilà, mais moi je vais vous dire, ce virus, d'accord, il est grave et dangereux, ok. Mais je préférerais qu'elle ait peut-être... Si elle attrapait le Covid, bon, elle l'attrape. Mais je préférerais qu'elle ait une vie peut-être plus courte, mais plus douce, qu'une vie plus longue et difficile.
Mais peut-être que cette situation ne va pas durer. Elle est comment, votre maman, là ?
Alors, elle commençait à avoir une petite dégénérescence cérébrale, c'est-à-dire que, bon, on peut discuter encore un peu avec elle, mais il y a des moments, il y a un mot qui... Elle veut dire un mot, mais elle en dit un autre. Enfin, et elle ne se situe pas toujours, quoi. Bon, parce que, vous voyez, elle ne marche plus. Donc, elle est sur une chaise roulante. Et il y a des fois, et elle veut se lever pour aller attraper quelque chose. Donc, elle tombe de la chaise, évidemment. Donc, elle ne se rappelle plus.
93 ans.
96.
96.
Oui. Et voilà. Et je m'occupais d'elle en permanence. J'avais chez elle, on avait fait une installation, tout était parfait. Il y avait les infirmières, il y avait tout ce qu'il fallait. Moi, j'y allais tous les soirs. Je la couchais, je m'en occupais. Enfin, voilà. Et du jour au lendemain, ben, je ne peux plus. Voilà. Puis c'est comme si... Il y a une coupure brutale, en fait, très brutale. Et c'est absolument... Je vis avec ça, je me lève avec ça, je me couche avec ça, je...
Tu comprends.
Je pense à elle toute la journée, j'essaye de l'appeler au téléphone, mais impossible de la joindre parce que les trois quarts du temps, elle n'est peut-être pas dans la chambre. Après, des fois... Elle se trompe dans le bouton quand le téléphone sonne, elle raccroche au lieu de décrocher. Voilà. Et puis, c'est difficile d'appeler pour ne pas déranger le personnel parce que, bon, elles ont un travail phénoménal.
Et j'aimerais savoir, Véronique, en fait, quelque chose. Parce qu'on parle souvent ici de la vieillesse, de ces EHPAD, de la fin de vie. Oui. Et on évoque souvent avec. Des personnes qui sont originaires du Maroc, d'Algérie, d'Asie, d'Afrique. Souvent, le fait que les vieilles personnes vivent jusqu'à la fin de leur vie avec les leurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'elle ne vit pas avec vous, cette maman ? Elle ne peut vraiment pas vivre avec vous ? Est-ce que c'était très compliqué ? Ou est-ce que...
C'est-à-dire que je suis toute seule à m'en occuper.
Oui.
Puisque j'avais trois frères, donc j'en ai deux qui sont décédés. Et j'ai un autre frère, mais qui habite sur Paris, donc voilà. Et moi, j'ai un cancer. Voilà.
D'accord.
Je suis atteinte. Voilà, j'ai un cancer. Et j'ai eu des chimios et compagnie. J'ai été opérée plusieurs fois et tout ça. Donc voilà. Et à l'heure actuelle, ma dernière intervention date du mois de mai. Donc, je n'ai pas de traitement ni rien parce que, visiblement, les traitements ne font rien sur mon cancer. Donc, ce n'est pas bon signe. Et donc, tous les trois mois, je fais des bilans. Là, le dernier bilan que j'ai fait était au mois de fin août. Il était parfait, mais le prochain, je ne sais pas ce qu'il va m'annoncer. Donc, si je fais une récidive encore ou comme ça, je fais comment ? Le problème, il est là. Je suis toute seule là. Je n'ai pas de famille sur place.
Oui. Et est-ce qu'il n'y a pas de personne, en fait, vous savez, de service à domicile, en fait ?
Oui,
vous avez le droit
qu'elle
à des
avait
aides
déjà.
Comme ça ?
Oui, elle l'avait déjà.
Ça
chez
fait combien de
elle,
temps qu'elle est en EHPAD là ?
Malheureusement, ça ne fait pas longtemps. Ça fait 2 mois.
Oui. Je vous dis ça parce que. En fait, parfois, c'est une déflagration hein, pour les personnes qui atterrissent là. Et je pense que c'est une perte de repères terrible.
Elle a changé énormément en un mois.
Mais je ne vous dis pas ça pour vous faire culpabiliser. Hein,
mais c'est-à-dire que culpabiliser...
Non, mais je tiens à vous le préciser. C'est-à-dire que je me pose toujours cette question dans notre société aujourd'hui de surconsommation où finalement on baigne tous dans l'hyperconfort. Hein. Est-ce que ce n'est pas notre petit confort qui est menacé quand on doit prendre nos parents, parce que
moi personnellement je n'aurais pas cette maladie là.
Complètement.
Même quitte à aller habiter avec elle, vous savez, le temps qui lui restait à vivre. D'ailleurs, je m'en occupais tous les jours, hein, de toute façon. Hein. Mm-hmm. Même pendant mes séances de chimio, il y avait des jours, j'avais ma séance de chimio le matin, mais je me levais l'après-midi pour aller m'occuper d'elle, parce que le matin, elle avait les infirmières, à midi, elle avait les aides ménagères. Et l'après-midi, c'était moi qui y allais pour m'occuper de l'intendance. Je la couchais, je m'occupais de tout. Et j'ai pas passé. Il y a très longtemps que je n'ai pas pris de vacances, vous savez.
Mais comme beaucoup de.
Mais ça, je le regrette pas. Hein, je ne regrette pas.
Comme beaucoup de personnes s'occupent de leurs parents, vous faisiez.
Voilà, je suis une aidante. J'étais une aidante à 100%, mais sans aucune. Sans aucun regret de moi, je je le faisais avec grand plaisir. Oui. Parce que je voulais qu'elle ait une fin de vie un peu douce, quoi.
Oui.
Voilà. Parce qu'elle a connu des choses quand même un peu difficiles dans sa vie. Et voilà. Et là, elle est dans un état... comprends pas pourquoi je ne viens pas, pourquoi tu viens pas, pourquoi... Ouais,
alors, deux mois qu'elle est là-bas... Ça a dû être...
Alors au début, je pouvais y aller. Je pouvais y aller régulièrement, donc ça ne posait pas de problème. Mm-hmm. Et du jour au lendemain, elle ne me voit plus. Et je pense à elle et je pense à toutes les personnes âgées qui sont dans les EHPAD. Hein, mais c'est affreux, quoi, de les isoler comme ça.
Il y a cette notion de... Je pense que, voilà, dans les EHPAD, il y a bien évidemment des équipes dans la plupart des EHPAD, des gens dévoués.
Complètement.
Mais quoi qu'il arrive, voilà.
Elles ne peuvent pas rester toute une journée auprès de... Vous savez, une personne âgée, ça demande beaucoup de temps,
oui.
Beaucoup de patience, beaucoup d'écoute. C'était presque devenu mon enfant, quoi, en fait. Mais elles ne peuvent pas gérer... toutes les personnes âgées, puis il faut dire les choses comme elles sont, les EHPAD n'ont pas assez de personnel, elles manquent de personnel, et c'est ce que je ne comprends pas, on ne les aide pas.
Et quand vous évoquiez tout à l'heure, vous me disiez quelque chose sur lequel j'aimerais qu'on revienne, c'est vous m'avez dit, je préférerais qu'elle ait une vie plus courte, ou qu'elle ait une vie plus courte, mais qu'elle soit plus heureuse. Qu'est-ce que vous entendiez par là?
Mais j'attends que si elle attrapait le virus... Vous voyez ce que je veux dire? Pouvoir être là pour l'accompagner, mais... de la protéger du virus, c'est très bien. Je reconnais, que c'est normal de vouloir protéger les gens de la maladie. Mais elle a 96 ans. Moi, elle viendrait attraper le virus... parce qu'elle attrape le virus de la grippe, demain elle peut en mourir, mais on n'en fera pas toute une histoire. C'est le Covid. Bon, effectivement, c'est grave, c'est dangereux pour ces gens-là. Ils ont tous des pathologies, donc automatiquement, voilà. Mais moi, si elle attrapait le virus et bon, qu'elle venait à partir, mais que je puisse l'accompagner jusqu'au bout à côté, c'est pas grave. Que je voudrais, c'est être avec elle, quoi. C'est pouvoir la voir un peu régulièrement et quand je l'entends au téléphone et qu'il pleure et qu'il gémit et qu'il comprend pas ce qui se passe, quoi, parce que bon, le Covid pour elle, vous avez beau lui expliquer, mais c'est quoi ce microbe? Et puis alors elle pense que c'est elle qui est malade, que c'est parce qu'elle est malade qu'on va pas la voir. Enfin, vous voyez, elle mélange un petit peu. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Moi, je fais très attention parce que, bon, il y a quelque temps, j'étais tellement mal que j'étais à deux doigts de la sortir de l'EHPAD et de la prendre à la maison. puis autour de moi, bon, on m'a dit, non, réfléchis à ce que tu fais. Si demain, tu as un gros souci, puis tu peux attraper le Covid aussi. Hein. Enfin, ça, c'est pas grave. Qu'est-ce que je fais de maman? Voilà, c'est ça. Et là, il est hors de question de la mettre n'importe où, n'importe comment. Voilà. Donc, c'est très dur, surtout que, bon, on ne sait plus rien de sa vie. Je m'occupais de ses médicaments, je m'occupais de tout. Là, je ne sais même plus. Je ne sais même plus ce qu'elle a comme médicament. Je ne sais pas si elle a bien dormi, je ne sais pas si elle mange bien, je ne sais pas. Je ne sais plus rien. C'est extrêmement difficile. Extrêmement douloureux.
C'est culpabilisant, j'ai l'impression.
Ah, énormément. Mmh. Énormément. Je suis en colère. Je suis en colère. Par moments, je suis en colère même après moi pour avoir eu le cancer qui m'empêche de voilà. Je suis en colère, oui. C'est vrai que je suis en colère.
Et en même temps, vous êtes seule.
Hein, avec complètement.
Aucun de vos deux frères, visiblement, ne bouge trop, si j'ai bien compris.
Mon frère aîné est à Paris. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse?
Oui.
Mes deux autres frères sont décédés. Les neveux et nièces. Nantes, Paris, Bordeaux, Toulouse. Il n'y a plus personne ici.
Ah oui, vous n'avez plus personne autour de...
Non, je n'ai plus de famille proche... Tout le monde est parti. Enfin, la vie, c'est la vie qui a fait comme ça. Hein. Bon, on ne peut pas demander. Voilà, ils ne vont pas venir habiter ici ou prendre ma mère chez eux. Ce n'est pas possible. D'abord, ça la désorienterait complètement. Et voilà. Et puis elle me réclame. Elle me réclame tous les jours. Elle était tellement habituée à moi, à me voir tous les jours, tous les jours, tous les jours.
Oui, oui.
Voilà. Et j'avais déjà été un petit peu aidante pour mon père qui était plus âgé qu'elle. Il avait 10 ans de plus qu'elle à l'époque. Qui avait fait un petit AVC. Et j'avais déjà été aidante avec lui. Puis quand papa est parti, maman a commencé à décliner tout doucement. Et donc, j'ai continué. Et voilà, ça fait des années, des années, des années. Et là, il y a une coupure...
Mais il ne faut pas que vous vous en vouliez. Je comprends votre colère. Hein.
Je suis en colère. Oui.
Je comprends votre colère parce qu'on devrait tous pouvoir mourir chez nous, en fait. On devrait tous pouvoir...
Ou entourer des siens, déjà.
Entourer des siens. Mais ça, bon, voilà, après, l'histoire de nos vies respectives fait que, comme vous l'avez dit, votre frère est à Paris, lui, par exemple, et il est loin de cette situation.
C'est ça.
Voilà, mais la vie l'a emmené là-bas et on ne peut pas lui en vouloir de ça. Mais vous, voilà, vous avez fait ce que vous pouviez. Mais je me dis quand même que dans une société où, aujourd'hui, on automatise tout avec des machines, des machins. Vous voyez, je pense qu'il y a quand même un paquet de gens qui pourraient être chez eux et dont on pourrait s'occuper et qui pourraient rester. Et ça coûterait peut-être moins cher aussi à la société et ça coûterait moins cher en peine pour toutes ces personnes-là et puis pour tous ceux qui les aiment et qui les entourent. Peut-être que c'est un peu utopique, hein, ma vision des choses. Et,
non, elle n'est pas utopique. Mais on n'est pas une société qui... Comme vous dites,
on est une société qui lâche nos vieux.
On est une société qui lâche nos vieux. On les respecte plus, nos vieux. Moi, je le vois autour de moi. C'est quelque chose qui m'a toujours révolté, ça. On n'est pas une société où on prend soin de nos vieux comme il faudrait le faire.
Non.
Et ça, c'est un regret que j'ai.
Je vais vous citer un exemple. J'ai un ami, moi, qui... voilà, il est peintre en bâtiment, et puis il arrive, là, maintenant, il a 55 ans, 56 ans, il ne trouve plus beaucoup de travail, et puis il a envie, il aime bien s'occuper des autres. Hein, il aime bien s'occuper des personnes âgées, parce que ses parents, à lui-même, vieillissent, hein, et donc il s'occupe déjà de ses parents. Eh bien, écoutez, il cherche où s'adresser, même à Pôle emploi, il dit qu'il voudrait être aidant, et on manque d'aidants, hein, puisqu'il y a des boîtes aujourd'hui qui embauchent à tour de bras, et ils ne trouvent pas de boulot. Ça veut dire qu'on n'est pas organisé, enfin, il y a un truc qui dysfonctionne, et qui fait que, au bout de la chaîne, Eh bien, je pense que
Mais parce que je crois que on ne prend pas au sérieux. Enfin, je ne sais pas, je ne trouve pas les mots, je ne les dis pas comme il faut. Mais on attache moins d'importance, je crois, au bien-être de nos personnes âgées. Je ne parle pas de tout le monde, mais je parle de la société, hein, de la société actuelle. C'est vrai que bon, ça me perturbe beaucoup. Et alors tout le monde me dit, il faut que tu te calmes, tu vas faire repartir ton cancer, tout ça.
Il faut que vous pensiez à vous aussi, hein. Mais bon, c'est pas facile.
J'y pense, mais vous savez, ça fait 5 ans que je me bats avec ou contre lui, je sais pas comment je dois l'appeler. J'en suis à la 5e opération, bon, enfin bref, je ne sais pas où je vais, mais... Voilà, c'est dur. C'est très dur parce qu'elle est loin de moi et que je suis loin d'elle et que je peux pas. Et alors quand je vais la voir, je n'ai pas le droit de m'approcher. La dernière visite que j'ai fait, la pauvre, elle m'a tendu les bras comme un enfant tend les bras à sa maman pour que je lui fasse la bise. J'ai pas pu. C'est épouvantable, quoi.
Ouais,
épouvantable. Ouais. Puis elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris.
Vous pensez qu'elle n'a pas percuté sur le fait qu'en ce moment, il y avait un virus, que c'était compliqué,
non,
ça
non.
C'est quelque chose qu'elle ne saisit pas.
Elle ne percute pas. Elle voit que tout le monde a des masques et tout ça. Mais parce que déjà, chez elle, les aides ménagères avaient les masques J'ai voulu expliquer. Je lui dis, mais maman, il y a un microbe.
Et alors, elle vous dit quoi?
Elle me dit, c'est quoi ce microbe? Elle me dit, c'est la fin du monde ou quoi? Elle me dit, c'est la fin du monde. Et elle revient et elle dit, mais je ne l'ai pas la maladie. Elle me dit, je ne suis pas malade. En fait, elle n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Parce qu'en fait, elle ne sortait plus déjà. Elle était chez elle, elle ne sortait plus du tout. Elle était un petit peu, comment dire, elle voulait même plus sortir, rien. Donc, elle regardait un peu la télévision. J'avais beau lui expliquer ce qui se passait, mais elle ne percute pas, là. Elle ne comprend pas. Alors... C'est très dur.
Ouais. Et on ne peut pas contourner une situation qui est triste.
Il faut
l'affronter comme ça. C'est sûr que la colère ne s'en ira pas.
Voilà.
Courage. Courage.
La directrice fait tout ce qu'elle peut. Voyez, on sent qu'ils mettent tout à l'œuvre, mais bon, une demi-heure par semaine, vous rendez compte.
Je pense que malheureusement. Malheureusement, tous ces établissements sont confrontés à cette situation qui est vraiment
elle est dramatique pour
les EHPAD, c'est un truc qui mais là c'est terrible. De toute façon, cette situation est terrible.
En ce moment,
j'espère qu'on va en sortir parce que c'est
je ne sais pas comment.
Eh ben un vaccin, Véronique, un vaccin pour que tout le monde redevienne immunisé contre cette saloperie.
Oui, comme cette saloperie, comme vous dites. Il faut le souhaiter. Enfin, voilà. Bon, je voulais vous en parler un petit peu. Et encore là, ce soir, je suis un peu plus apaisée, mais il y a des moments où je suis beaucoup plus qu'en colère, comme je vous ai dit, en colère.
Mais c'est normal que vous soyez
triste.
En colère.
Et triste.
C'est normal que vous soyez en colère, que vous soyez triste. Malheureusement, vous voyez, on est au bout de... d'une chaîne... incontournable vers laquelle on se dirige tous. Hein.
Oui.
Vous savez, moi, quand je croise des gens qui se prennent pour je sais pas quoi ou je sais pas qui, je me dis, mais ils oublient. Ils oublient.
Ils vont y arriver aussi.
Voilà.
Ils vont y arriver aussi.
Ben oui. Mm-hmm. On y va tous. Je veux pas être... je rappelle simplement
il faut être réaliste.
La vie est quelque chose de merveilleux, de très beau, mais qu'elle peut s'avérer être redoutablement dure et impitoyable et que là, la famille dont je parle souvent sur cette antenne, le fait de bien réfléchir et être en conscience avec ce qu'on fait et essayer de préserver justement cette famille, l'entité famille, l'amitié aussi, parce que le salut passe aussi par l'amitié. Hein. Souvent, notre famille biologique, comme on parlait avec Kevin tout à l'heure, à la place, eh bien, vient une vient se créer une famille d'amis, de potes, et cette famille-là, on peut peut-être compter sur elle plus tard pour voilà,
oui,
pour ne pas pour que ça soit moins pénible.
Tout à fait.
En tout cas, je vous souhaite plein de courage, Marie-Madeleine.
Oui,
vraiment.
Merci Olivier de m'avoir écouté.
Véronique,
merci
pardon,
beaucoup.
Je vous appelle Marie-Madeleine, mais c'est la personne qui vient après. Excusez-moi,
oui,
Véronique.
C'est pas grave.
Courage à vous, et puis voilà, j'ai que ce mot-là, courage.
Oui, mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté.
Je voulais
en parler, je voulais que les gens réalisent qu'il y a des gens qui souffrent dans ces affaires.
Mais je pense que tout le monde le sait, et j'espère que
oui,
ça vous a fait
du bien. Oui, tout le monde le sait.
J'espère
merci
que ça vous a
infiniment.
Fait du bien de parler un peu.
Merci infiniment.
Au revoir.
Au revoir.